Bonjour à toutes et à tous, nous allons corriger l'exercice modélisation d'un détecteur capacitif d'humidité, donc jour 12, qui nous permettra de réviser tout ce qui concerne les condensateurs. Donc première question, question donc Q1, prévoir qualitativement le sens de variation de la capacité C du détecteur capacitif d'humidité quand la teneur en eau d'un sol argileux augmente. Alors nous allons nous appuyer au cours de cet exercice. Pas mal sur la figure 2, et on constate sur cette figure 2 que lorsque la teneur en eau augmente, la permittivité epsilon augmente. Et on nous donne dans les données la relation qu'il y a entre la capacité justement et la permittivité, ainsi que la surface S des armatures et la distance qui les sépare. Alors déjà, on sait que plus la surface des armatures est grande, et plus la capacité est grande également, hein, plus on pourra accumuler de charges. Et au contraire, plus la distance est grande entre les armatures, et plus la capacité est faible. Et l'on constate également ici que la capacité est proportionnelle à la permittivité, donc epsilon. Donc si epsilon augmente, alors la capacité augmente également. Donc pour conclure sur cette première question, donc prévoir qualitativement, donc il n'y a pas de calcul à faire, le sens de variation de la capacité C quand la teneur en eau augmente. Donc quand la teneur en eau augmente d'après la figure 2, la permittivité augmente, et d'après la relation entre la capacité C et la permittivité, donc epsilon, on peut en conclure que la capacité augmente quand la teneur en eau du sol argileux augmente. Question Q2, question très classique quand on a la charge ou la décharge d'un condensateur. Montrer que la tension aux bornes du condensateur obéit à l'équation différentielle donc, qui est donnée ci-dessous, sous la forme tau fois la dérivée de UC par rapport au temps plus UC qui est égal à E. Alors pour ce faire, on sort l'artillerie habituelle, c'est-à-dire les lois habituelles d'électricité. On commence toujours par la loi des mailles qui nous permet d'établir une relation entre les tensions. Ici, on a donc que E est égal à UC plus UR. On enchaîne avec la loi d'Ohm qui nous permet d'avoir une relation entre la tension aux bornes d'un conducteur ohmique d'une résistance et son intensité, UR égale R fois I. Et donc, on va avoir que E est égal donc à UC plus R fois I. Puis après, il va falloir exprimer l'intensité I en fonction de la tension aux bornes du condensateur qui nous intéresse, UC. Pour cela, on a deux relations qu'on va combiner, qui sont que l'intensité, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps, I égale dQ sur dT. Et on sait aussi que la charge Q est proportionnelle à la tension aux bornes de condensateur, et que le coefficient de proportionnalité se nomme la capacité, justement, du condensateur, Q égale C fois UC. Q égale Q, entre guillemets, moyen mnémotechnique. Et donc en combinant les deux, on a que I est égal à D sur DT fois C fois UC. Comme C est la capacité du condensateur est constante, on va avoir que I finalement est égal à C fois DUC sur DT. On remplace dans la première relation dans la loi des mailles, et donc on a E est égal à UC plus RC fois DUC sur DT. Par identification, en posant taux égale R fois C, on obtient bien la relation souhaitée, E égale UC plus taux fois DUC sur DT. Question Q3 aussi classique, vérifier que la fonction qu'on nous donne, E fois 1 moins exponentielle de moins T sur taux, est bien solution de cette équation différentielle. Première chose, et qu'elle satisfait deuxième chose à la condition imposée à la date T égale 0. Alors, quand on a ce type de question-là, il faut prendre la fonction. Donc c'est très mathématique qui nous est proposé, et l'injecter dans l'équation différentielle. Donc si on remplace UC et dans l'équation, donc UC plus taux DUC sur DT, donc UC et UC dans la dérivée, on va obtenir donc E fois 1 moins exponentielle de moins T sur taux, plus taux fois la dérivée par rapport au temps de E fois 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Donc, on recopie la ligne en dessous, E fois 1 moins E de moins T sur taux, plus taux fois, donc il va falloir dériver E, si on développe, et moins grand E fois exponentielle de moins T sur taux. La dérivée de E par rapport au temps de grand E de l'attention de notre générateur est nul, puisque E est une constante. Et donc il va falloir dériver donc E sur donc il va falloir dériver pardon E fois la dérivée donc par rapport au temps de exponentielle de moins t sur tout. Donc la dérivée d'exponentielle a fois x et a fois exponentielle a fois x. Donc la dérivée d'exponentielle de moins t sur tau, c'est moins 1 sur tau fois exponentielle de moins t sur tau. Les deux combinés, il vient donc, si on développe tout, e grand e moins grand e fois exponentielle de moins t sur tau, plus ce qui vient du terme de la dérivée, e fois exponentielle de moins t sur tau. On constate que moins e fois exponentielle de moins t sur tau et plus e fois exponentielle de moins t sur tau se simplifient et on trouve que c'est égal à e, ce qui est grand e, ce qui correspond bien à uc plus tau fois duc sur dt qui est égal à grand e. Ce qui montre bien que la fonction qu'on a injectée dans notre équation différentielle est bien solution de cette équation différentielle. On avait une deuxième chose à montrer, c'était que notre fonction satisfait aussi à la condition imposée à la date t égale 0 seconde. On disait que le condensateur, à ce moment-là, à l'instant initial, il était déchargé. Donc si on remplace t par 0, on fait uc à t égale 0 égale e fois 1 moins exponentielle de 0 sur tau, c'est-à-dire exponentielle de 0, qui vaut 1. Donc ça fait e fois 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Et donc la tension à t égale 0 est bien égale à 0, ça veut bien dire que le condensateur est initialement déchargé. Question Q4. Montrer que la valeur de UC à l'instant tau est approximativement de 0,63 fois grand E. Pour cela, on remplace t par tau dans l'expression. Donc ça fait E fois 1 moins exponentielle de moins tau sur tau, c'est-à-dire E fois 1 moins exponentielle de moins 1. À la calculatrice, on trouve environ 0,63 E. Question Q5. Montrer que le temps caractéristique tau du circuit RC doit être au minimum de l'ordre de 200 microsecondes. Alors, on le vérifie puisqu'on nous dit que le microcontrôleur, on a 52 000 valeurs de la tension par seconde. Ce qui signifie qu'on a une mesure toutes les 1,52 millième, c'est-à-dire toutes les 19,2 microsecondes. Or, on nous dit qu'il va falloir 10 valeurs de tension aux bornes du condensateur pour déterminer correctement tau. Donc ce qui fait 10 fois 19,2, c'est-à-dire 192 microsecondes qu'on peut arrondir à l'excès à 200 microsecondes. Donc la constante tau doit bien être au minimum de 200 microsecondes. Question Q6. À l'aide de la contrainte sur le temps caractéristique tau du circuit RC, déterminer la teneur minimale en eau d'un sol argileux qu'il est possible de mesurer avec ce dispositif. Donc le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et doit être correctement présentée. On sait que lorsque l'on a des tâches complexes à faire comme ceci, il faut commencer à faire un raisonnement, même si on ne va pas jusqu'au bout, et que tous les raisonnements proposés logiques vont être valorisés. Alors ici, bien comprendre la question, donc déterminer la teneur minimale en eau, qu'il est possible de mesurer avec ce dispositif. Et on sait que la teneur minimale en eau, d'après la figure qu'on a déjà utilisée, la figure 2, elle est reliée justement à la permittivité. Et on sait, d'après les premières questions qu'on a faites aussi, que la permittivité est reliée donc à la capacité de notre condensateur. Et donc on va y aller comme ça petit à petit pour remonter, puisqu'on sait que le tau il doit être au minimum donc de 200 microsecondes, et qu'on sait exprimer tau en fonction de la résistance et de la capacité du condensateur. Donc on va écrire que R fois C doit être supérieur à 200 fois 10 moins 6 secondes. Et le C, c'est epsilon fois S sur D. Donc R fois epsilon fois S sur D va être supérieur à 200 fois 10 moins 6 secondes. On passe les autres termes de l'autre côté. Et donc ça va nous donner que epsilon finalement doit être supérieur à D fois 210 moins 6 sur R fois S. On remplace par les valeurs. D, c'était 1 fois 10 moins 2 mètres. R, 2,2 fois 10 puissance 5 ohms. Et S, 1 fois 10 moins 1 mètre carré. Ce qui va nous donner un epsilon finalement supérieur à 9,1 fois 10 moins 11 farad par mètre, c'est-à-dire 0,91 fois 10 moins 10 farad par mètre pour être dans la même puissance de 10 que la figure 2 pour la permittivité en ordonnée. On n'a plus qu'à regarder maintenant 0,91 approximativement où il se situe. On est à peu près donc à 0,9 fois 10 moins 10. On regarde à quelle teneur en eau cela correspond sur le graphique. Et en utilisant la figure 2, on trouve une teneur en eau minimale d'environ 15%. Question Q7. Indiquer l'objectif final de l'extrait du programme Python qui nous est demandé. On voit, on comprend, d'après les dernières valeurs, donc print valeur de taux en millisecondes, que on cherche à déterminer la valeur de la constante de temps taux associée. Et donc Q8, recopier la ligne 5 du programme. Comment on fait pour déterminer justement une constante de temps? On sait que la constante de temps arrive quand la tension va correspondre, et on l'a remontré à la question, donc si on remonte Q4, à 63% de la valeur maximale de la tension grand E. Donc, while tension inférieure à 0,63E, tant que la tension va être inférieure à 63E, ben le programme va s'effectuer et on recommence la mesure de UC jusqu'à avoir la tension qui nous correspond, c'est-à-dire à 63% de E. Question Q9, pour terminer. Donc on nous dit qu'on a la valeur de taux en millisecondes, donc avec une très grande précision, qu'on va pouvoir arrondir pour pouvoir déterminer donc la teneur en eau mesurée dans le sol argileux et pour voir si elle est suffisante pour assurer une croissance normale d'une plante. Sachant que la norme nous était donnée, que la teneur en eau doit être comprise entre 24% et 38%. Donc, d'après ce qu'on a vu dans les questions précédentes, on peut exprimer epsilon. Donc, epsilon, c'est d fois taux sur r fois s. Donc, le d n'a pas changé. Le taux, donc on va le prendre avec la précision qui nous est donnée. Et le r n'a pas changé. La résistance du conducteur ohmique est toujours la même. Et la surface également. On fait l'application numérique et on trouve un epsilon, une permittivité environ égale à 1,3 fois 10 moins 10 farad par mètre. On regarde par lecture graphique toujours à l'aide de la figure 2 qui nous aura été bien utile. On obtient une teneur en eau d'environ 20%, ce qui est inférieur aux 24%. Donc on peut en conclure que le sol argileux ne convient pas à une croissance normale de la plante et qu'il faudra déclencher donc l'arrosage automatique. Je vous dis à bientôt, bonne journée.